Il y a un truc qui n'allait pas dans la façon dont cette commission avait été menée. 4 mois d'échange, souvent transformés en spectacle, écrit l'opinion, auquel chacun a pris sa part, audiovisuel public, de point comment la commission d'enquête a viré au théâtre.
Waouh !
Quelqu'un me disait tout à l'heure que M. Alloncle était invité de RMC, la radio, des grandes gueules peut-être, et que quand il est entré, on va aller vérifier cette info, que quand il est entré dans le studio, ils ont mis une musique de cirque, de clown. On va aller vérifier cette info. Est-ce qu'ils ont mis l'intro ? Oh putain, ils l'ont fait. Oh les fadas !
Bonjour monsieur le député Charles Alloncle.
Merci de votre invitation, bonjour.
On a mis une petite musique de cirque. Le cirque se termine aujourd'hui à l'Assemblée nationale alors ?
Je vois que vous faites pas exception avec l'ensemble de la classe médiatique qui par corporatisme préfère discréditer ces 6 mois de révélations de commission d'enquête, pas rentrer dans la polémique. Mais
ce qui est drôle, c'est qu'il est... La musique c'est drôle, mais ce qu'il dit lui, c'est beaucoup plus drôle. Bon déjà on n'est pas dans le sourire, hein, on n'est pas le truc... Ah, on est obligé de se le refaire, on est obligé de se le refaire.
Monsieur le député Charles Alloncle.
Merci de votre invitation, bonjour.
On a mis une petite musique de cirque. Le cirque se termine aujourd'hui à l'Assemblée nationale, alors ?
Je vois que vous ne faites pas exception avec l'ensemble de la classe médiatique qui, par corporatisme, préfère discréditer ces 6 mois de révélations de commission d'enquête. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais...
Alors, c'est 4 mois, hein. C'est 4 mois de travail, mais il y a eu des suspensions. Mais avec Monsieur Alloncle, on sait que les chiffres, c'est toujours un petit peu compliqué, donc faites pas attention.
Si je suis là, déjà, merci pour votre invitation. J'ai fait très peu de médias, d'ailleurs, ces dernières semaines. Et ces derniers mois pour me consacrer vraiment sur le fond. On a fait un peu plus de 70 auditions, on a écouté près de 300 personnes. Je crois qu'il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites, donc je serais ravi de répondre à l'ensemble de vos questions.
Mais j'ai l'impression quand même, Charles Alloncle, que vous êtes tout seul. Même le président de la commission sur le audiovisuel public, monsieur Jérémy Patrier-Lettus, vous accable. Il était sur une radio concurrente en début de semaine pour dire que finalement vous aviez transformé cette commission en tribunal politique. Comment ça se fait que vous vous retrouvez, alors vous avez parlé de la classe médiatique, mais un peu tout seul. Alors, vous avez le service public contre vous, mais vous avez même le président de votre propre commission qui vous critique.
Oui, vous savez, moi j'ai refusé de tomber dans ce piège, de commenter les critiques des uns et des autres, parce que tout ça est fait à quelques jours du vote du rapport pour éviter de parler du fond, pour éviter de parler des révélations, pour éviter de parler de tout strike qu'on a mené, qui a permis au fond de lever le capot sur les 4 milliards d'euros d'argent public dépensé chaque année pour l'audiovisuel. Quand on parle et qu'on répond aux attaques, on ne parle pas par exemple des conflits d'intérêts qui minent l'audiovisuel public. On a pu le voir, il y a des dirigeants de France Télévisions qui basculent dans des sociétés de production après avoir empoché des chèques très importants d'indemnités de licenciement. Ça a été l'une des révélations de cette commission d'enquête. On ne parle pas des abus sur...
Et oui, ça méritait, il a pris de l'argent.
L'utilisation de l'argent public, par exemple des suites dans des palaces à Cannes, de Madame Ernotte et des dirigeants de l'audiovisuel public qui ont donné lieu d'ailleurs à l'ouverture d'une enquête du tribunal pour détournement de biens publics et abus de biens sociaux.
Donc en fait, vous gênez...
On ne parle pas de la bureaucratie.
Non mais pourquoi le président dit ça ? Pourquoi il parle de tribunal politique ? D'ailleurs, vous dites vote d'un rapport, mais c'est pas sûr que votre rapport soit voté, vu l'ambiance.
En fait, tout ça pour vous dire qu'on est, pour que les téléspectateurs et les auditeurs comprennent, on est à quelques jours d'un vote très important, qui est le vote du rapport qui conclut ces 6 mois d'enquête de la commission. C'est la première fois que l'Assemblée nationale fait une commission d'enquête sur le sujet de l'audiovisuel public. Je m'en étonne parce que ça représente une somme très importante. 4 milliards d'euros d'argent public, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture, quand on sait par exemple que pour la sauvegarde du patrimoine, on attribue seulement 4,5% du budget.
D'accord, mais si ce rapport n'est pas voté...
Donc tout ça pour vous dire que plus on alimente des polémiques à quelques jours du vote du rapport, plus on crée un terreau favorable pour donner des arguments aux 31 députés membres de la commission d'enquête de ne pas le voter. Et je voudrais revenir sur un point. Si ce rapport...
Non mais pour que les gens comprennent bien, s'il n'est pas voté ce rapport,
exactement,
il termine aux oubliettes, voilà, qu'est-ce qu'il va devenir ?
Ce n'est pas que le rapport qui ne sera pas publié, c'est l'intégralité des vidéos, des auditions, des comptes rendus des auditions qui disparaîtront.
T'inquiète, on les a réact, on les a toujours. T'inquiète. Inquiétons les anneaux.
Du jour au lendemain, notamment du site de l'Assemblée nationale, et qu'on ne pourra plus exploiter. Donc il y a un enjeu qui est immense, qui est énorme en ce moment, qui d'ailleurs est à la hauteur et à la proportion du déchaînement.
En plus, ces vidéos, elles sont sur YouTube, elles vont jamais disparaître.
Médiatique qui est en train de se produire en ce moment contre moi et contre globalement les travaux qu'on a fournis sérieusement depuis 6 mois, puisque si le rapport n'est pas publié, on ne pourra plus diffuser et retrouver les vidéos de ces 70 auditions, on ne pourra plus retrouver.
Aussi, on les garde, t'inquiète.
Les comptes rendus de ces 70 auditions, on ne pourra même plus relayer des révélations et des propos qui ont été tenus dans le cadre de ces auditions sous peine de poursuite pénale. Donc vous voyez, je voudrais simplement vous interpeller sur le fait que l'enjeu de jeter le discrédit...
Sous peine de poursuite pénale ?
dans ces derniers jours, la selle est quand même très grosse. Ils vont tous se déchaîner pour essayer d'obtenir un vote défavorable. Et moi, je veux pas répondre aux polémiques. Je veux pas répondre aux attaques parfois très basses. Je veux qu'on se concentre sur le fond. Et je suis là pour répondre notamment à cette question. Quelles sont les révélations? Je sais que Patrick Cohen l'a posé. Je voudrais vraiment qu'on parle de ça, pas de la forme et pas des polémiques.
Parce que Patrick Cohen était assis à cette même place et il a cette question à vous poser. On va l'écouter.
Curieux qu'il puisse nous dire réellement, en réalité, ce que sa commission d'enquête, il y a eu 230 personnes auditionnées quand même, a permis de révéler sur le fonctionnement de l'audiovisuel public, parce que moi, je ne sais toujours pas.
Alors, qu'est-ce que vous avez révélé ?
Moi, j'ai pas de doute sur la qualité et les compétences journalistiques de Patrick Cohen. Je pense qu'il a été parfaitement conscient et au courant des révélations faites. La première révélation, qui pour moi est le cœur de cette commission d'enquête, c'est les conflits d'intérêts qui minent l'audiovisuel public avec les sociétés de production privées. Ce qu'il faut que les Français sachent, c'est que France Télévisions attribue près d'un milliard d'argent public chaque année à des sociétés de production privées pour produire les propres contenus de France Télévisions.
Incroyable ! Alors, parce qu'on s'interroge, enfin tout le monde s'interroge sur les révélations de cette commission. Incroyable, France Télévisions fait produire des programmes par des sociétés privées. C'est fou. Bon, tout le monde le savait, et les chiffres on les connaissait aussi, mais c'est incroyable.
Alors que France Télévisions dispose de 9000 salariés, payés en moyenne 72 000 euros par an, qui les situe dans les 9% des Français les mieux rémunérés chaque année.
Mais c'est dans son cahier des charges. Et la France Télévisions a l'obligation de faire travailler des sociétés privées.
À hauteur de près de 300 millions, et là on est sur près de 900 millions, donc on voit que ce cahier des charges est plus qu'explosé et que ces sociétés de production privées.
Ce que Monsieur Allonc le souhaite, c'est que France Télévisions puisse embaucher des centaines, voire des milliers de salariés supplémentaires pour pouvoir produire ces émissions en interne. Il se trouve que à France Télévisions, si tu leur dis ça, ils vont être extrêmement heureux. Il faudra juste donner les moyens de le faire, bien sûr. Merci Monsieur Allonc, qui s'avère être ici un immense soutien de l'audiovisuel public.
Et on profite allègrement. Et ça donne lieu à des cas de conflits d'intérêts extrêmement préoccupants.
Des appels d'offres ?
Non, il n'y a pas d'appels.
Bon, je voudrais bien être dedans dans les trucs là.
Appels d'offres, parce que malheureusement, ce sont des œuvres considérées comme des œuvres de création et donc ça échappe aux procédures classiques de marché public. Ce qui appelle d'ailleurs à beaucoup de schémas de déviance et à beaucoup de schémas de conflits d'intérêts. Donc je vais vous citer deux exemples. C'est le cas par exemple de Nathalie Darrigrand, qui a été directrice de France 5, qui a signé les contrats parmi les plus importants de France 5, qui a une société de production privée, Together Media. Elle s'est fait.
Sur Nathalie Darrigrand, ça a été démunké notamment par le journal Le Monde. Vous avez un article Le Monde qui en parle, si ça vous intéresse.
Licenciée de France Télévisions, elle a pris une indemnité de licenciement de près 400 000 euros pour se retrouver quelques mois après à la tête de cette même société de production privée. Et pour autant, les liens n'étaient pas brisés avec France Télévisions parce qu'elle a triplé.
Alors, il n'y a pas d'appel d'offres, c'est un sacré problème quand même. Pourquoi tu t'arrêtes pas là-dessus, monsieur Etienne ? Monsieur le rapporteur vient d'expliquer lui-même pourquoi il n'y a pas d'appel d'offres pour une œuvre de création audiovisuelle. C'est-à-dire, tu peux faire un appel d'offres pour repeindre le mur de ta salle de bain. Tu peux dire, voilà, faites-moi des devis. Mais pour une enquête, pour un documentaire, ou pour une émission, tu vas avoir des devis. Mais effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens de faire des appels d'offres. Parce que ce qui va t'intéresser, c'est plutôt ce à quoi va ressembler l'émission. Et ce que tu appelles un appel d'offres, dans notre jargon, s'appelle plutôt un pilote. Et effectivement, avant de lancer une émission avec un gros budget à l'antenne, ce qui est fait dans ce milieu, ce sont des pilotes. C'est-à-dire que tu fais des numéros zéro de l'émission. Et puis si ça plaît, ben on en commande plus. Et puis si ça plaît pas, l'émission ne voit jamais le jour. Mais pour ça, il faut connaître un minimum cet univers de la télévision. Quand on se veut le rapporteur de ce monde et qu'on ne connaît absolument rien à cet univers, ça donne ce genre de questions.
Le montant de contrat passé entre cette société de production et France Télévisions.
Ça manque de garde-fous en fait. Il faudrait fixer des règles en la matière.
Ça manque de garde-fous et on voit que l'argent public aujourd'hui est fait pour alimenter des contrats de sociétés de production privées. Et moi, je m'étonne que une grande partie de la gauche et des macronistes qui s'élèvent contre le risque de privatisation ne s'élèvent pas de la même façon contre la privatisation qui est en cours aujourd'hui chez France Télévisions, puisque l'immense majorité des contenus de France Télévisions est déléguée à des sociétés de production privées qui ont des intérêts financiers. Monsieur Niel et Monsieur Pigas sont fondateurs et actionnaires de la première société de production privée, Media One.
En fait, je pense que Monsieur Allonc ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Monsieur Allonc demande que, plutôt que d'être sous-traité à des boîtes privées, il faudrait que France Télévisions produise ses contenus en interne. Alors, Ce faisant, en disant ça, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en fait, il demande davantage de moyens. On a bien compris à travers sa question que lui souhaitait plutôt moins de moyens pour France Télévisions. En fait, il en demande davantage. On peut tout à fait produire tout ce que France Télévisions diffuse en interne, mais ça va coûter un fric monstre. Je vous rappelle que quand France Télévisions décide d'arrêter une émission parce qu'elle ne lui plaît plus ou parce que l'audience est insuffisante, produite par une boîte de prod, eh bien, elle envoie un mail à la boîte de prod en disant « bah voilà, c'est terminé, hein, on avait dit qu'on vous commandait des émissions jusqu'en juin, par exemple, ça ne nous plaît plus, on arrête ». Et fin de l'histoire, ça coûte plus rien. Quand tu as ces mêmes salariés en interne pour produire cette émission, ces gens, il faut les recaser. Voilà. Sur quoi ? Je sais pas, mais il faut les recaser. C'est là où les coûts deviennent gigantesques. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui. Déléguer au privé, sous-traiter, c'est aussi faire des économies. Je crois que Monsieur Alloncle ne sait pas de quoi il parle et ne se rend pas bien compte ce qu'il dit.
Qui fournit des contenus de France Télévisions à hauteur de 110 millions d'euros par an. Donc, à nouveau, on va prendre un point de recul. On voit Le Monde, le Huffington Post, le Nouvel Observateur, Les Jours, tous les médias de Monsieur Niel et Monsieur Pilias qui se déchaînent contre moi en ce moment pour essayer de me discréditer, il y a des intérêts financiers qui sont énormes dans l'affaire. Et plus je me suis intéressé à ces intérêts financiers, plus je me suis intéressé à ce milliard de contrats passés chaque année, plus j'ai subi
et
des
coûts. Vous voudriez que le public produise tout ? Parce que c'est étonnant, parce que vu votre parcours politique et votre positionnement politique, vous êtes plutôt la droite libérale, si j'ai bien compris. Ce procès que vous faites aux sociétés privées me paraît assez incongru, en fait, parce que on peut déléguer au privé
une partie du
C'est vrai qu'il est intéressant que l'entrepreneur à l'oncle, puisque c'est ainsi qu'il se présente avant d'être député, c'était un entrepreneur, c'est comme ça qu'il se présente partout et notamment sur ses réseaux sociaux, ce qui est un mensonge puisque ça a été débunké. Monsieur à l'oncle n'a jamais eu de part dans l'entreprise dans laquelle il était salarié et n'a jamais été entrepreneur, ce qui est un mensonge. Hors cette histoire de commission, mais il est étonnant que quelqu'un qui se présente comme un entrepreneur en veuille autant aux boîtes privées.
Travail, peut-être parce que ces sociétés privées font mieux que ce que pourrait faire le public.
Mais c'est du copinage pur et simple. Il n'y a aucune règle et aucun respect des marchés publics. On donne des contrats à des grosses sociétés qui sont détenues par quelques personnes
qui
ont un pouvoir médiatique, mais qui ponctionnent l'argent public. Je vais vous citer un exemple. C'est l'exemple, par exemple, de Nagui, qui est co-actionnaire de Banijé, qui est la deuxième société à profiter des contrats de production chaque année, à hauteur de près de 90 millions d'euros par an. On a pu voir dans l'audit de production de Nagui que sur sa simple émission N'oubliez pas les paroles, il est rémunéré l'équivalent d'1,5 million pour son émission. Et dans le contrat, dans l'audit de production...
Et Monsieur Alloncle, l'entrepreneur, vient à nouveau devant vous de confondre rémunération et chiffre d'affaires. C'est pas grave, on lui en veut pas.
On a pu voir qu'il s'était versé une rémunération de près de 400 000 euros supérieure à ce qui avait été convenu au devis initial.
Mais il rapporte de l'argent, puisqu'il faut quand même rappeler que le service public, et notamment France 2, est financé en partie par de l'argent public, l'argent de nos impôts, mais aussi par la publicité. Et Nagui est d'ailleurs programmé au moment où il y a la publicité. Donc il doit faire de l'audience pour apporter de l'argent. Et il rapporte de l'argent. C'est d'ailleurs ce qu'il vous a expliqué lors de cette audition.
Non, mais pardon, le rôle de cette commission d'enquête, c'était d'enquêter. Il y a des soupçons de favoritisme énorme qui ont d'ailleurs valu une condamnation à Nagui et à sa société de production dans les années 90. C'était une condamnation pour comportement.
Alors ça aussi, ça a été débunké et je l'ai vérifié. La société de Nagui n'a pas été condamnée, c'est France Télévisions qui a été condamnée à l'époque.
Voilà. Déloyal et favoritisme avec France Télévisions, on était dans les années 90. C'était la fameuse affaire des animateurs producteurs, des voleurs de patates. Il y avait Jean-Luc Delarue, il y avait Arthur, et on voit que 30 ans après, on n'a pas retenu les leçons de cela. Si je vous cite cet exemple, c'est parce qu'on voit aussi que l'ancien numéro 2 de Banijé, Takis Candilis, a basculé de Banijé Société de Production à France Télévisions. Il est devenu numéro 2 de France Télévisions, et là, dans les deux années où il a officié comme numéro 2, il a fait exploser les contrats de Nagui.
Quelqu'un me dit, à la place de Nagui, je le poursuivrai en diffamation. C'est fait, puisque Nagui a porté plainte pour cyberharcèlement et non pas diffamation, qui est plus intéressant dans l'affaire qui l'intéresse ici. Il en a parlé lors de son audition. Plainte pour cyberharcèlement contre X. Hein, contre X, c'est-à-dire contre quiconque aurait participé à ce cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, ce qui peut impliquer n'importe qui, vous, moi, n'importe quelle personne qui sur les réseaux aurait dit des choses fausses, voire violente contre Nagui, ce qui peut impliquer dans cette plainte d'ailleurs Monsieur Alloncle, puisque dans la plainte il est indiqué que ce sont les tweets, les déclarations de Monsieur Alloncle qui sont à l'origine de ce cyberharcèlement sur Internet. Donc ceci est fait, Nagui a porté plainte.
Qui lui-même est co-actionnaire de la société de production depuis laquelle Monsieur Candilis venait. Et ça ne l'a pas empêché de faire simplement ça. Il est resté 2 ans à la tête de France Télévisions. Il a fait passer, par exemple, le nombre de primes de Nagui de 3 à 11 le samedi en l'espace de quelques mois.
Mais ça marche.
Il est revenu dans sa société de production.
Les émissions de Nagui fonctionnent. Elles font l'audience. Donc le contrat est rempli en quelque sorte, puisque c'est ce qu'on lui demande.
Quand vous voyez des clauses qui expliquent que Les contrats passés par cet animateur-producteur seront favorisés par France Télévisions. Quand vous voyez les montants, les montants sont quand même colossaux. C'est à peu près 2 500 € pour 30 minutes d'émission. Il y a 14 émissions qui sont produites chaque jour, pour N'oubliez pas les paroles. Donc ça fait un montant de 35 000 € par jour perçu par Nagui, un montant juste sur une saison et une émission de N'oubliez pas les paroles, il y a 1 500 000 €.
Oui, il est trop payé.
Le rôle de cette commission d'enquête, c'est de voir à quel moment des personnes sans risque.
Je débunke pas toutes les erreurs, il y en a trop. C'est de la facture, c'est du chiffre d'affaires. C'est énorme, hein. Attention, on ne dit pas que Nagui est mal payé, hein. Mais c'est pas une rémunération, c'est de la facture, c'est un chiffre d'affaires, c'est jusqu'à 14 par jour, et c'est pas 14 par jour, et c'est X jours par mois, vous le savez. Mais attention, hein, c'est quand même on est sur des chiffres qui sont gigantesques, mais c'est tellement truffé d'erreurs que je peux pas tout corriger. Vous écouterez les auditions, ça vous intéresse.
Sur le service public, sur l'argent des Français, sans garde-fou, sans marché public, sans respect strict des règles d'appel à concurrence, ça a été tout le rôle de cette commission d'enquête. Et vous voyez, plus je m'y suis intéressé, plus j'ai creusé les contrats passés et les absences de garde-fou, plus on a commencé à se déchaîner et à me taper dessus. Donc voilà, je vois aussi que le cœur de cette commission d'enquête a été la passation de ces contrats, et il était temps, une bonne fois pour toutes, c'était la première fois qu'à l'Assemblée nationale on s'intéressait à ça. Quand on parle de l'argent des Français, c'est important de faire preuve de la plus grande vigilance.
Moi, je vais vous dire, monsieur le député, je suis horrifié du nombre d'attaques que vous subissez. Quand il y a eu les commissions Benalla, les commissions d'enquête Benalla, les commissions d'enquête sur le Covid, les commissions d'enquête sur le Mediator, sur la fraude fiscale, tout le monde a considéré qu'il était légitime pour le Parlement de s'intéresser à ces sujets. Quand vous vous intéressez à un sujet avec l'ensemble de la commission d'enquête qui est parfaitement légitime, quand vous mettez en lumière les sommes, les méthodes, etc., eh bien j'ai le sentiment que vous gênez une sorte d'état profond. Moi, ce que j'appelle la gauche culturelle, des gens qui se sont arrogés beaucoup de contrats, qui tiennent beaucoup de choses dans l'audiovisuel public, beaucoup d'argent public pompé. Alors, moi, je vais vous dire, je suis heureux que la commission d'enquête ait pu permettre de mettre en lumière des chiffres. On vous reproche d'être un juge. Vous considérez que vous êtes un parlementaire qui met en lumière des choses pour faire comprendre aux citoyens que je suis, ou alors que vous êtes un juge?
Dans commission d'enquête, je vous remercie pour votre question, dans commission d'enquête, il y a enquête. Il faut que les Français comprennent que c'est pas une table ronde. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est défini dans la Constitution, c'est d'évaluer les politiques publiques et de contrôler l'action du gouvernement. C'est d'ailleurs un rôle que les députés...
ou un procureur.
C'est d'ailleurs un rôle...
ou un procureur.
Mais ni l'un ni l'autre, je suis un parlementaire qui effectue sa mission inscrite et consacrée dans la Constitution, qui est d'évaluer les politiques publiques et de contrôler l'action du gouvernement. Bien souvent, les députés se sont réduits à une seule et simple mission de lever la main dans l'hémicycle pour voter les lois. Ils ont oublié l'évaluation des politiques publiques et ils ont surtout oublié comment on pouvait remettre de l'efficacité dans les dépenses publiques et dans les impôts des Français.
Pour une fois qu'on sait ce que les parlementaires font parce qu'on le regarde,
Fatima.
C'est pas mal.
Fatima.
Vous dites que votre rapport risque d'être enterré parce que finalement tout le monde se ligue contre vous. Oui. Mais est-ce que votre rapport ne risque pas d'être enterré à cause de vous. Dans le sens où, moi, ce que j'entends, quand j'entends Jérémy Patrier,
Jérémy Patrier, voilà, l'étude, ce président de la commission.
Le président de la commission qui prend des distances avec vous, ce qu'il vous reproche, ce n'est pas ce que vous dites, c'est finalement aussi votre style. L'idée que vous ne vous mettez pas au service d'une cause, mais vous avez mis cette cause à votre service pour vous créer un nom, pour devenir finalement un personnage. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous...
Cette phrase, elle est magique. Ne s'est pas mis au service d'une cause, il a mis la cause à son service. On pourrait résumer presque ces 4 mois d'audition, hélas d'ailleurs, le sujet sur lequel la commission se portait était vraiment important et essentiel, par cette phrase.
Vous reproche cela justement.
Bon, vous savez, je pense que je n'avais rien à gagner à tout ça. Quand on regarde de près les 4 milliards d'euros d'impôts des Français qui sont consacrés à l'audiovisuel public, vous pouvez être sûr que vous allez vous mettre toutes les chaînes publiques à dos, ça a été le cas depuis le premier jour. Vous allez vous mettre à dos aussi tous les actionnaires et fondateurs de sociétés de production qui prennent 1 milliard d'euros d'argent public chaque année par France Télévisions. C'est le cas de M. Niel, de M. Pigas, qui lors de leur audition se sont déchaînés par des outrances verbales et une forme de violence aussi dans le cadre de cette audition, alors qu'on a auditionné nombre de patrons d'entreprises qui se sont parfaitement tenus et ont gardé leur sang-froid. Je n'avais rien à gagner. Je pense qu'aujourd'hui, vous le voyez, dans cette dernière ligne droite, juste avant le vote du rapport, vous pouvez voir une bonne partie de la presse publique subventionnée et aux ordres de M. Niel et M. Pigas se déchaîner contre moi. Donc je savais que je n'avais rien à gagner, mais je pense que c'est salutaire. C'était la première fois que l'Assemblée nationale ouvrait le capot sur l'utilisation de ces 4 milliards d'euros d'argent public. Il faudra le faire pour bien d'autres politiques publiques, pour bien d'autres dépenses, pour bien d'autres institutions, hauts comités, commissariats, parce qu'on entre.
Alors, c'est intéressant. intéressant parce que presque il nous annonce d'autres commissions de ce type. On a l'impression qu'il aimerait poursuivre ses missions sur d'autres sujets. Alors, donc c'est peut-être un espoir pour nous. C'est peut-être ce soir la dernière audition de cette commission, mais nous retrouverons peut-être Monsieur Alloncle en saison 2, 3, 4 sur d'autres sujets. On l'attend avec impatience.
De se déclasser. On est en train de perdre en souveraineté. Les intérêts de la dette en France nous déclassent. Ça va nous coûter dans quelques mois, quelques années, 100 milliards d'euros par an. Donc si on ne fait pas une sorte d'électrochoc pour retrouver de l'efficacité dans la dépense publique, si on ne dit pas aux Français, demain vous allez payer moins, mais vos services publics vont se porter mieux parce qu'on va arrêter avec la bureaucratie, on va arrêter avec les conflits d'intérêts, on va arrêter avec les dépenses inutiles, on n'arrivera pas à sauver notre pays. Donc j'assume de prendre ce risque-là. J'assume que matin, midi et soir, on me casse, on essaye de me discréditer parce que je m'attaque aussi à des gens qui...
La confusion que fait Monsieur Alloncle, c'est entre la fin et les moyens. Moi, par exemple, ce qu'il dit là, je pourrais souscrire à 2000%. Le fait que notre pays ait une dette gigantesque et une charge de la dette qui pèse beaucoup trop lourd sur son budget, ce qui nous empêche d'investir sur des choses importantes. L'éducation, par exemple, la santé, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est la fin. Mais ce qui est reproché à Monsieur Alloncle au travers des 4 mois de son travail, c'est pas la fin, l'objectif, parce que ça, c'est important. C'est la manière, c'est le manque de rigueur, c'est le manque de travail, c'est les fausses informations, c'est la désinformation dont il a fait preuve pendant 4 mois, pendant les auditions et sur les réseaux sociaux, alors que rien ne l'obligeait à poster quasiment quotidiennement sur les réseaux. Ça n'a rien à voir avec le travail qu'il fait au sein de la commission. C'est ça qu'il lui reprochait. C'est la méthode, mais pas l'objectif. Le contrôle de l'utilisation de l'argent public par l'audiovisuel public, ça, c'est un vrai sujet. Mais le problème, c'est que ce sujet essentiel, important, il a été abîmé, il a été pollué par des méthodes, un comportement, une absence de travail et de rigueur et un agenda politique personnel qui a fait demander, je le rappelle, au président de la commission sur RTL il y a 2 jours, si je dis pas de bêtises, lundi matin, donc hier, le président de la commission, monsieur Jérémy Patrialetus, qui a dit que si lui avait une question à se poser par rapport à monsieur Alloncle, c'était celle-ci, 2 points, ouvrez les guillemets, dans l'agenda politique personnel que vous avez au travers du travail de cette commission, y a-t-il celui-ci de devenir le ministre de la culture de Jordan Bardella s'il était élu président de la République. Ça, ce sont les mots du président de la commission. C'est ça qui est reproché à M. Alloncle. C'est pas tant la philosophie qu'il y a derrière de bonne gestion de l'argent public, c'est la manière dont il a mené ce travail. Et là, il fait la confusion entre les deux.
Il possède des médias très puissants et qui feront tout aussi pour me donner une image qui discréditera à la fin le rapport, mais je pense honnêtement que c'est de salubrité publique.
Une dernière question, parce que vous faites partie d'une famille politique qui a toujours tapé sur l'audiovisuel public de gauche, l'UDR, qui a comme objectif, si jamais ils arrivent au pouvoir, de privatiser les services publics. Donc vous êtes parti avec un biais idéologique et une idée en tête. Donc finalement, vous êtes venu vous faire le service public de gauche, que vous estimez être de gauche, et vous avez pris le biais des dépenses publiques et de l'allocation des 4 milliards pour vous dire, je vais me faire l'audiovisuel public.
Absolument pas. Depuis le premier jour
en tant que homme de droite qui pense que l'audiovisuel public est de gauche.
Depuis cette première conférence de presse, cette première audition de la commission d'enquête il y a 5 mois, j'ai rappelé publiquement que je croyais aux missions précieuses de l'audiovisuel public et que le rôle de cette commission d'enquête, c'était de jeter un projecteur cru sur les dérives, sur les dysfonctionnements pour mieux sauver l'audiovisuel public. Aujourd'hui, il est menacé de disparition. Aujourd'hui, on a 81 millions d'euros de déficit qui ont été cumulés depuis 2017 par France Télévisions. Oui, mais... Une trésorerie qui est passée de plusieurs dizaines de millions d'euros qui est devenue négative chez France Télévisions et des capitaux propres qui sont inférieurs à la moitié du capital social. Selon la Cour des comptes, France Télévisions est menacée de faillite et de disparition. Moi, je crois au service public. Je crois à ces missions précieuses et je pense que la seule façon de les sauver, c'est de créer un électrochoc, que les dirigeants de l'audiovisuel public se rendent compte de ces turpitudes pour, une bonne fois pour toutes, mettre en place nos recommandations et le sauver. Je ne me suis jamais prononcé pour la privatisation. Peut-être une différence logique avec un certain nombre de personnes de mon camp politique. Mon seul rôle depuis le début, c'est de mettre un terme définitif à ces dérives qui minent notamment les conflits d'intérêts, qui minent l'audiovisuel public. Alors, il y a un certain nombre d'entorses au pluralisme, à l'honnêteté de l'information, à la neutralité qu'on a pu constater. C'était l'une des 3 dimensions de la commission d'enquête. Il faudra aussi les résoudre. Je veux pas être caricatural. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'à la fin, dans les 4 milliards d'euros d'argent que les Français mettent chaque année, leur service public fonctionne davantage.
Charles Alloncle, vendredi, à votre place, nous recevons Mathieu Pigas, l'un des actionnaires de Media One qui travaille pour le service public. Vous l'avez d'ailleurs auditionné récemment. Si vous aviez une question à lui poser à Mathieu Pigas.
Moi, j'aimerais simplement lui poser une question au-delà des outrances qu'on a pu voir, notamment lors de son audition à Elsa Geniel. Il y a plusieurs questions majeures auxquelles il n'a pas répondu. Il y a, est-ce que Media One, qui pourtant est détenu par un fonds d'investissement américain qui est actionnaire majoritaire, pourquoi il ne veut pas fournir la preuve que KKR fonds d'investissement...
L'un des soucis de la méthode à l'oncle, c'est de ne pas écouter les réponses des personnes auditionnées. Lors de cette audition, avec notamment un représentant de KKR, le fameux fonds américain que vient d'évoquer M. Alloncle, sous serment, le représentant de KKR, M. Jérôme Nomet, si je dis pas de bêtises, lui a expliqué que la participation de KKR dans MediaOne n'était pas majoritaire. N'était pas majoritaire. Il est déclaré sous serment et ça donne. Alors le problème, c'est que quand on cherche des infos sur l'ordinateur parce qu'on n'a pas bossé ou qu'on est en train de tweeter pendant la commission, forcément on n'écoute pas. C'est dommage de ne pas écouter.
Qui pourtant est détenu par un fonds d'investissement américain qui est actionnaire majoritaire, pourquoi il ne veut pas...
Voilà, ça a été démoqué en live, mais il n'écoutait pas.
Fournir la preuve que KKR, fonds d'investissement américain, est minoritaire. Pourquoi est-ce qu'on a constaté dans les audits de production qu'il y a une surfacturation systématique de MediaOne, dont Mathieu Pigas, fondateur, de 10 points? Il y a un écart de 10 points entre la marge constatée à la fin et ce qui est initialement prévu par le devis. Pourquoi est-ce que Monsieur Pigas a mis son groupe Combat, un groupe médiatique dont il assume la bataille culturelle et politique? Pourquoi il a mis le groupe Combat à la tête et actionnaire du groupe MediaOne qui produit des émissions du service public? Pourquoi, par exemple, le groupe MediaOne invite Mathieu Pigas et Xavier Niel, par exemple, pour faire la promotion de sa Freebox sur une émission du service public? C'est autant de questions très importantes parce que MediaOne, je le rappelle, la première société de production qui bénéficie des contrats avec France Télévisions, c'est 110 millions d'euros par an.
Merci.
Et malheureusement, je suis très déçu, mais on n'a pas eu la réponse à ces quatre questions fondamentales.
Les réponses à ces quatre questions fondamentales ont été apportées pendant l'audition, mais M. Alloncle ne devait pas écouter à ce moment-là. C'est pas grave, hein. C'est des longues auditions, on peut le comprendre.
Qui pourra vous répondre?
On verra s'il y a des réponses vendredi.
Merci Charles Alloncle, dernière journée de la commission aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Merci d'être passé par les GG.
C'est intéressant cette interview. Merci de me l'avoir proposée.